Grand reportage.
Pour développer son secteur industriel, la Côte d'Ivoire se lance dans la transformation des produits agricoles. Il y a encore une vingtaine d'années, la Côte d'Ivoire comptait peu dans la filière anacarde. C'est aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Aujourd'hui, comment se développe ce secteur sur lequel le pays mise énormément ? La Côte d'Ivoire en quête de sa révolution industrielle. C'est un grand reportage de Stanislas Daïchimier.
Avec environ 150 employés aujourd'hui, le Centre d'innovation et de technologie de l'anacarde, opérationnel depuis décembre 2019 à Yamoussoukro, à 235 km au nord d'Abidjan, est installé sur une superficie de 24 hectares, avec seulement 4 hectares exploités pour cette première phase et des projets d'extension. Non loin de l'école polytechnique, des machines occupent une partie du grand bâtiment bleu. Ici, on ne peut pas échapper au bruit quand elles sont en marche. Soumaoro Bangali, directeur du CITA, explique le processus.
Au bout de la pomme, vous avez une noix. C'est celle-là qui fait l'objet de transformation. Ça doit être nettoyé.
Ça, c'est la première étape.
C'est la première étape. Alors, dans certaines industries, il y a encore une pré-première étape où il y a des stations de lavage. Mais après, il faut calibrer. En gros, il faut les classer par taille. Après l'étape, il va falloir cuire. Quand on cuit des noix qui ont des dimensions plus ou moins identiques, la cuisson est plus uniforme et donc le reste du process peut être intéressant. On passe à la cuisson, c'est à la vapeur. On peut le faire à l'huile, il y a plusieurs procédés, mais celui qui semble s'imposer aujourd'hui comme le plus performant de par le monde, c'est justement à la vapeur. Et après la vapeur, on va au refroidissement, vous voyez dedans. Refroidissement normal. On peut le faire aussi forcé, hein, si vous voulez augmenter votre capacité de production. Mais la plupart des industries aujourd'hui le font 24 heures. Après, il faut déconstruire.
Et c'est un procédé qui est extrêmement dur.
Oui, oui, parce que vous pouvez beaucoup perdre dans ce niveau. Il ne faut pas couper pour couper. Il faut voir les raisons qui vous amènent à faire beaucoup de pertes à ce niveau. Ça part de la bonne maintenance, le bon réglage des machines, tout et tout. Et puis le respect des paramètres de cuisson, de température et autres. Et puis le sérieux des opérateurs.
Est-ce que ce n'est pas dangereux à ce stade du décortiquage au niveau des mains?
Au niveau des mains, oui. Vous parlez des lames qui sont là.
Il y a des lames et des produits.
La bombe de cajou, qui est effectivement toxique. Voyez-vous, c'est pourquoi elles sont protégées. Hein. Elles ont des gants. Et puis, il n'y a pas que les gants. Vous voyez les huiles à côté. C'est de l'huile de coco qui protège contre l'attaque chimique de cette bombe-là. C'est des pratiques sur lesquelles nous sommes très rigoureux pour limiter un peu les accidents de travail. Mais ce qu'elles font, c'est juste ce que la machine n'a pas pu faire automatiquement. Ça, c'est le retour qu'on rattrape à la main. Plus on fait de la bonne maintenance, plus on minimise un peu les ratés. Donc, moins on embauche de personnes pour ça. Donc, moins on a des personnes exposées au risque.
Après les différentes étapes de décortiquage et de calibrage, suit ce que l'on appelle la zone propre. Et ici, il y a moins de bruit.
L'élément qui va être mangé commence à être dénudé, exposé. Donc on isole un peu par rapport à la poussière. C'est un peu des exigences alimentaires.
Vous me disiez qu'il y a plein de choses à regarder, brisures, etc.
Oui, tout à fait. Mmh. Hein, au niveau de la classification, il y a 26 grades. Chaque grade a une valeur marchande donnée. L'idée, c'est que dans le processus, on maximise la sortie de produits à plus haute valeur. Vous avez différents types de brisures. Hein. Ça peut être brisé latéralement comme longitudinalement. Ça n'a pas la même valeur marchande. Mais ce n'est pas ici que cette brisure a lieu. C'est depuis tous les niveaux du procédé. C'est pour ça qu'on veille méticuleusement à ce que chaque étape soit maîtrisée pour, à chaque étape, faire le maximum de gains.
C'est de la haute couture pour un produit à manger.
Oui, bien sûr, c'est vraiment de la haute couture. Chaque niche doit être traquée pour faire vraiment le maximum de gains à ce niveau-là.
Mais ce n'est qu'une première étape de transformation, en fait, le premier niveau.
Oui, effectivement, ici, majoritairement d'ailleurs chez nous, on sort les amandes blanches avec les différents grades et on exporte. Mais là où on exporte, il continue un deuxième niveau de transformation pour arriver au produit final à consommer. Donc c'est de la cuisson, des amandes grillées, des amandes enrobées de chocolat, enrobées de tout ce que vous pouvez imaginer. En pâte pour faire des sauces, même ça rentre dans la grande pâtisserie, etc. L'idée que nous avons, c'est que nous puissions, en Côte d'Ivoire, chez nous ici, arriver jusqu'à ce bout-là, parce que c'est encore une marge de valeur que nous checkons, et si on arrive à le maîtriser ici, c'est des économies qui restent sur le plan local. L'idée qu'on a, c'est qu'on vulgarise, on amène les nationaux, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à consommer ces produits finis-là de façon régulière et en quantité.
Mais il y a aussi un travail manuel où des femmes utilisent des lames très coupantes fixées sur une table de travail réglée en fonction du calibre. Des lames qui permettent de fendre la coque afin d'en sortir l'amande. Les équipements viennent principalement de l'Inde et du Vietnam, accessoirement de l'Italie. La nouvelle usine de Yamoussoukro a aussi une autre fonction. Karim Berthé, directeur de la transformation du Conseil du coton et de la nacarde.
Ce site a pour vocation d'apporter une assistance technique à l'ensemble de l'industrie locale, c'est-à-dire formation du personnel, l'accompagnement des opérateurs qui sont installés. Donc ce n'est pas qu'une usine. Donc il y a des facilités de formation. C'est dans ce sens que vous voyez des salles aussi équipées pour faire face à cette activité-là.
Dans ce sens, le Centre d'innovation et de technologie de la Nacarde dispose de plusieurs salles de formation, comme l'explique Soumaoro Bangali, directeur du CITA.
Nous en avons 6 de capacité nominale de 20 places par salle. Donc une capacité cumulée de 120 places. Donc par année, on peut aller de 750 jusqu'à plus en fonction de l'organisation des rotations de formation. L'objectif de ce centre, c'est justement d'assurer la valorisation des compétences pour tous ceux qui sont dans l'activité de la Nacarde. Autant les agents de l'industrie technique, production, maintenance, la question de la qualité alimentaire, autant les producteurs aussi pour améliorer leurs pratiques de culture, pour aller vers des rendements meilleurs.
Le CITA a donc pour vocation d'accompagner tous les acteurs de la filière Anacarde avec un accent particulier mis sur la partie industrielle.
Nous avons les études d'accompagnement des industriels depuis le début, depuis l'étude technique d'implantation, le dimensionnement de leurs usines et ensuite les procédés là-dedans pour pouvoir mieux gérer les différentes activités qu'il y a dans l'usine. Pour objectif final, les rendre beaucoup plus performants et rentables. On a mis ce centre pour justement minimiser l'échec. Donc il est bon que dès le départ, nous soyons là pour vous aider à mieux dimensionner votre usine, pour vous aider à mieux former et même à recruter vos agents. Tout ça dans le souci vraiment de garantir à chaque étape de la gestion de votre business d'avoir les meilleurs moyens pour réussir. En ce moment, avec notre partenaire international qui est l'université de Ho Chi Minh Ville de Vietnam, nous sommes en train de faire l'incubation formation de 3 promoteurs et PDG de leur structure de transformation d'Anacarte.
Qui sont tous les 3 des Ivoiriens?
Oui, ce sont tous des Ivoiriens.
Un an après son entrée en service, le CITA a déjà à son actif la formation de près de 250 personnes, allant des organisations paysannes aux industriels, en passant par les ouvriers, dont beaucoup de femmes comme Marie-Laure Amoin-Tano.
Je suis formatrice à la classification manuelle.
Ça veut dire que vous aviez déjà une expérience?
Oui, oui. Bon, j'ai appris ça à Kajou de Fassou. C'est à Yamsoko. Ça fait depuis 2014. Et j'ai commencé à travailler à Cajou de Fassou. Et c'est là-bas que nous, on m'a formé. Et maintenant, je suis venu au moins donner mon savoir à CITA. Donc, ça me fait 6 ans maintenant que je suis dans le domaine de Cajou.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Bon, avant, j'étais ménagère, j'étais à la maison. Mais depuis que nous, j'ai commencé à travailler, en tout cas, ma vie a changé. Parce que je gagne de l'argent pour mes besoins, pour payer ma maison, mes factures, pour les enfants. En tout cas, à CITA ici, on m'a bien accueilli. Avec les femmes aussi, je me sens à l'aise. Elles regardent le travail que je leur montre, je me sens bien. Puisque quand tu montres un travail à quelqu'un, et puis elle aussi, en retour, elle sait faire là. Toi-même, tu l'as formée là, tu es heureuse.
Comme formatrice, Marie-Laure gagne un peu plus d'un SMIC et demi. Le SMIC mensuel en Côte d'Ivoire étant de 60 000 francs CFA, soit environ 90 euros. Quant à Annick Yakouadio, elle a commencé à travailler au Centre d'innovation et de technologie de la Nacarde il y a presque un an.
Avant, je me débrouillais un peu à Abidjan. Petits travaux pour subvenir à mes besoins. Et maintenant, je suis ici.
Est-ce que vous avez commencé directement au poste que vous occupez aujourd'hui?
Non, j'ai commencé au décortiquage. Après, charge de pelliculage, classification, puis charge de l'emballage.
Au décortiquage, vous devez porter des gants.
On utilise les gants pour protéger la main du produit de la nacarde, l'eau qui blesse.
Vous n'êtes pas resté longtemps, vous n'avez pas eu de problème avec ces produits-là?
Bon, j'ai eu des problèmes avec ma main, mais ça va maintenant.
Il y a encore une vingtaine d'années, la Côte d'Ivoire comptait peu dans la filière anacarde. C'est aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Le pays, qui transforme aujourd'hui environ 100 000 tonnes, soit 13% de sa production totale de 750 000 tonnes, veut accélérer le rythme. L'idée est que l'anacarde ne subisse pas la même évolution que le cacao, dont le pays est également le premier producteur mondial depuis depuis des années, selon le directeur du CITA, Soumaoro Bangali.
Exactement. C'est-à-dire que nous ne voulons plus rester cantonnés dans la production et puis évacuer le tout, nous limiter à une petite section de la valeur ajoutée. Donc c'est pour ça, pour la Macarde, nous sommes allés très vite et donc très vite également, nous voulons mettre les outils qu'il faut à côté pour très très vite monter dans l'échelle de la chaîne de valeur.
Pour l'économiste Daniel Anikpo, le démarrage de l'usine de décorticage de la Nakarde par le CITA à Yamoussoukro, le fonctionnement d'autres usines déjà en activité dans le secteur agro-industriel, bref, les projets en cours et à venir pour la transformation des matières premières agricoles ou minières, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. L'ancien ministre ivoirien du Commerce propose un nouveau modèle universel de développement, la méga-économie, et il a lancé il y a 12 ans un programme d'industrialisation globale endogène.
Une hirondelle ne fait pas le printemps. Des politiques isolées, segmentées, on crée une usine ici, on crée un petit truc ici, et ça c'est du bricolage. C'est du bricolage. Au niveau du PGC, nous disons qu'il faut créer 5000 cités des affaires dans les villages et les quartiers urbains de Côte d'Ivoire. Une cité des affaires comprend une école de développement, une caisse de microfinance locale et 200 co-entreprises de production des biens et services de consommation. Donc si vous prenez cette petite partie, vous constatez qu'au plan national pour le développement local, c'est 5000 écoles de développement, 5000 caisses de microfinance et 1 million de co-entreprises de production des biens et services de consommation. Une co-entreprise, c'est un groupement d'entrepreneurs associés, solidaires. Ça, c'est au plan local. Et au plan régional, nous proposons la création de 200 co-industries. Une co-industrie aussi, c'est un groupement d'industriels solidaires qui peut comprendre entre 100 jusqu'à l'infini, selon la taille des choses. Mais pour notre étude ici, quand nous voyons la taille de l'économie ivoirienne, nous pensons que les co-industries peuvent aller jusqu'à 1200, 2000 personnes dans la première phase.
Un programme qui doit concerner toutes les régions et tous les acteurs économiques du pays. Mais du côté de la filière cajou, le Conseil du coton et de la Nakarde n'exclut pas la fabrication locale des équipements pour les usines de décorticage, explique le directeur du CITA, Soumaoro Bangali.
Nous avons l'intention de développer une industrie de fabrication des équipements de la Nakarde en Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire, et fait par des Ivoiriens. Ça fait partie des missions assignées à ce centre-là. Bientôt, il y aura une unité de fabrication, d'assemblage, d'expérimentation des équipements faits par des nationaux.
Dans cette optique, un transfert de technologie est nécessaire. La naissance du CITA est par exemple le fruit d'un partenariat sud-sud. Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de la Nakarde.
Il y a les partenaires de plusieurs niveaux. Au niveau du foncier, qui sont donc les chefs locaux. Il y a les partenaires stratégiques tels que l'Institut national Félix Houphouët-Boigny qui nous a accompagnés. Il y a l'Université des technologies de Ho Chi Minh, ville du Vietnam, qui nous a également accompagnés dans un partenariat stratégique. Et le financement, nous avons pu mobiliser donc 10% sur le guichet Beurre Enclave de la Banque mondiale.
Vous parlez de l'Université Ho Chi Minh du Vietnam. Est-ce que ça a été facile d'obtenir leur participation, leur apport, sachant que pour le moment, seuls les Indiens et les Vietnamiens maîtrisent cette technique de décorticage des amandes, parce que c'est une concurrence potentielle pour eux?
Oui, mais nous n'avons pas eu de souci majeur à mobiliser donc l'expertise de l'Université technologique de Ho Chi Minh Ville. Je pense qu'ils ont une bonne lecture de l'avenir de la filière et de l'avenir de la collaboration internationale.
On parle de capter la valeur ajoutée, mais est-ce que ça va apporter en plus aux producteurs?
Bien sûr, si nous continuons à produire de la matière première et à exporter, comment nous pouvons maîtriser l'avenir de la filière? La Côte d'Ivoire a démontré qu'elle sait produire. Il faut que nous démontrons que nous savons transformer. Quand vous prenez la noix de cajou, les valeurs se répartissent de la façon suivante sur la chaîne de valeur. Au niveau de la production, c'est 20% de la valeur. Au niveau de la transformation, c'est 40%. Et au niveau de la distribution, c'est 40%. Si vous avez une filière dans laquelle vous performez dans la production, vous avez 20% de la valeur et vous n'avez aucune maîtrise sur les autres chaînes de valeur. Si vous êtes tout le temps dans la production, vous surproduisez, le prix tombe sur le marché international. Quand vous êtes juste en train de vendre la matière première, Alors, si vous arrivez à transformer, le produit transformé est plus facile à conserver, est plus facile à stocker que les noix brutes, qui sont très vite périssables. Donc, c'est pour nous extrêmement important et stratégique si on veut se projeter sur les 10 prochaines, les 15 prochaines, les 20 prochaines années en termes de confort des populations rurales et en particulier dans la frange agricole de cette population rurale.
La possibilité de stocker les produits périssables pour pouvoir vendre au meilleur prix étant aussi la garantie d'assurer la stabilité de la rémunération des petits producteurs.
Nous garantissons 20% et nous voulons faire mieux parce que la transformation que nous envisageons n'est pas seulement la transformation avec des grandes unités telles que celles que vous avez visitées. Nous travaillons à vulgariser la petite transformation au sein des coopératives agricoles. Et donc le producteur qui arrive à transformer et à vendre, même sur le marché local, il va avoir de la valeur ajoutée, forcément.
C'est la même problématique d'ailleurs au niveau du cacao, dont la Côte d'Ivoire est également le premier producteur mondial depuis des années. Dans la région du Haut-Sassandra, centre-ouest du pays, Jérôme Yao Kouakou est membre d'une coopérative de planteurs de cacao à Issia.
Nous ne savions pas comment est-ce que le chocolat se fait. Notre objectif, c'est de produire les fèves de cacao, les vendre et puis subvenir à nos petits besoins. Donc, par le biais d'un professeur américain qui nous a visité à Issia, qui nous a donné la culture de consommer le chocolat, qui nous a dit « Mais vous êtes le premier pays producteur de cacao au monde et puis vous ne mangez pas le cacao ». On dit, nous, on va faire comment pour consommer cacao? On ne sait même pas comment on fait le chocolat. Je dis, bon, quand je vais revenir une prochaine fois, je vais vous apprendre comment on fabrique le chocolat. C'est ainsi qu'à sa deuxième visite, il est venu à un petit appareil. Et ça nous a impressionnés. On a dit, mais mieux vaut faire une société et puis faire profiter aussi nos frères de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi qu'en 2019, nous avons monté une coopérative de transformation dénommée Socoplan, Société Coopérative Chocolat du Planteur. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener l'Ivoirien à consommer le chocolat.
Et vous transformez une partie de votre production?
Oui, nous transformons une petite partie, puisque nous n'avons pas une grande capacité de transformation. Oui, une transformation artisanale. Petit à petit, on a commencé à transformer quelques fèves et puis les fèves en tablettes de chocolat. Ces tablettes sont consommées dans la zone d'Issia, donc dans le Haut-Sassandra. Et aujourd'hui, nous arrivons à transformer au moins 2 tonnes de cacao dans l'année. Nous osons croire que si nous avons de l'aide quelque part, on pourrait aller jusqu'à 5 à 6 tonnes, pourquoi pas avoir 10 tonnes dans l'année.
Sur une production de combien?
Sur une production de 150 tonnes, de 200 tonnes.
Au-delà des petites unités de transformation, qui sont souvent des initiatives locales, la Côte d'Ivoire ambitionne de passer du stade de pays producteur et exportateur de matières premières à un pays producteur-transformateur n'exportant que les produits finis et semi-finis. Et pour cela, une agence de gestion et de développement industriel a été créée en 2013. Youssouf Ouattara est son directeur général.
C'est un opérateur qui exerce en zone industrielle à quelques préoccupations. Il a un interlocuteur unique. Un opérateur qui a besoin d'un terrain à usage industriel, il a un interlocuteur unique qui est l'AGEDI. Nous sommes un organe opérationnel et le financement de nos activités est tiré essentiellement du FODI, qui est le Fonds de développement des infrastructures industrielles.
Au moment de la création de l'AGEDI, il n'existait que 3 zones industrielles opérationnelles dans la région d'Abidjan.
Il a fallu l'avènement de l'AGEDI pour assainir les zones existantes, procéder à leur réhabilitation, optimiser leur occupation, combattre le phénomène de spéculation, des litiges qui devenaient de plus en plus nombreux au sein de ces plateformes industrielles et de se projeter dans la création de nouvelles zones industrielles, dont notamment celle de Akoupezegui sur une superficie globale de 940 hectares qui est en train de développer par différentes phases, dont la première de 62 hectares est aujourd'hui totalement aménagée et occupée. 127 autres hectares sont en train d'être aménagé par une entreprise chinoise dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage public. Une entreprise en train de structurer encore une zone dite des cimentiers. Et nous nous sommes projetés également dans l'étude et le développement des zones, notamment de Beaunois avec plus de 300 hectares, de Yamsokro avec 250 hectares sur 750 hectares globalement, Boaké sur environ 250 hectares et Korogo sur pour le moins une plateforme d'environ 25 hectares pour abriter l'anacarde. Voilà en gros ce que l'AGEDI a permis d'obtenir afin d'offrir plus d'opportunités en termes de gisements fonciers à l'installation des opérateurs industriels.
Aujourd'hui, les multinationales étrangères dominent l'industrie agroalimentaire en Côte d'Ivoire, mais le secteur privé local s'y intéresse de plus en plus.
La Côte d'Ivoire en quête de sa révolution industrielle, un grand reportage de Stanislas Ndaïchimier, réalisation Pierre Chaffanjon.